podcast.
Donc je dis bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité AAU.
Ok. Facile, hein?
Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité AAU.
Cette dernière session, je vais passer la parole à Fatma qui va assurer l'animation de cette session qui a essentiellement, donc, enfin uniquement d'ailleurs, des intervenants qui sont en ligne et Amal, pardon, Fatma et Amal, pour le dernier binôme d'animatrice pour cette session. Donc Fatma, je te...
Donc on passe directement à la troisième session qui a pour thématique les ambiances numériques. Les enjeux de la formation en ligne et comme on est déjà en retard, je passe directement la parole à nos deux intervenants, Laurent Lescope, qui est professeur à l'ENSA Nantes et chercheur au créneau, et Ada Soffer, qui est postdoc au créneau. Laurent, je vous laisse la parole.
Oui, je disais que nous allons faire la présentation en deux parties. La première partie, je vais juste donner le contexte dans lequel nous avons travaillé. Et puis, dans la deuxième partie, Ada se présentera plus finement ses résultats et ses méthodes à partir d'un exemple. Alors, on devait faire effectivement la présentation dans le Corollis. Ça aurait été un petit peu plus dynamique et intéressant à voir. Donc, petit rappel quand même de ce qu'est le Corollis. Vous l'avez vu, vous êtes peut-être entré dedans cet après-midi. L'objet au départ est un écran 360 panoramique avec un son 3D. Le principe donc a été mis en place par l'équipe de recherche qui suivait le dossier, et après l'habillage et ce qui se passe autour de l'écran a été réalisé par les étudiants suite à un concours. Et donc, l'objet lui-même a été découpé, monté et assemblé par les étudiants de Nantes dans un délai assez court, puisqu'ils ont fait tout sur une période d'un peu plus d'un mois. Voilà, alors, on ne voit plus le squelette actuellement, ce qui est bien dommage, parce que c'est la partie très spectaculaire de la structure. Mais maintenant, voilà, on a l'aspect blanc à l'extérieur. Et puis, donc, on a commencé à dérouler un certain nombre d'activités à l'intérieur du Corollis. Et pour ce qui est vraiment de la part ambiance, je dirais, au-delà de la partie technique, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce dispositif, en fait, il y a une très, très grande libération de la parole. Et à chaque fois qu'il y a eu des présentations de projets ou des présentations publiques ou des demandes d'études comme celle qu'a amenée Adas, en fait, on voyait que le dispositif surtout permettait aux personnes de s'exprimer. Enfin, il y avait quelque chose qui vraiment libérait la parole. On a aussi des œuvres artistiques, et ici, je fais mention de l'œuvre de Yann Breleu, donc qui a été créée pour la semaine de la Nantes Digital Week ici à Nantes, une œuvre qui interroge l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est un dispositif qui a plusieurs modalités de fonctionnement, dont pédagogique. Alors là où on fait le lien, c'est effectivement tout a commencé pendant la période Covid où on a connu ça, cette situation comme ça de vie à travers l'écran. Enfin, la réalité c'était plutôt celle-ci, c'est-à-dire que en fait on avait plutôt des écrans vides et puis quelques personnes qui se montraient. En fait, on a cherché des solutions, et puis donc évidemment il y avait les moodboards, les systèmes en ligne là, qui permettaient de travailler, d'annoter. Mais en fait, on s'était dit qu'il était plus intéressant de tester alors que les plateformes se mettaient en place, de tester des vrais cours dans le métavers tel qu'on l'appelle maintenant. Alors, des plateformes pour faire des cours en ligne complets, il en existe plusieurs. Une des plus connues pour la pédagogie, c'est celle-ci, Engage. Et en fait, les métavores actuellement souffrent d'une mauvaise presse. Hein. Je pense que tout le monde a lu des articles concernant Meta, donc ex-Facebook, en disant que c'est un échec cuisant. Et en fait, c'est un peu le problème que l'on a par rapport à ce sujet-là, puisque Facebook et enfin Meta concentre toute l'attention, on va dire, autour de sa plateforme et de ce qu'elle peut faire ou de ce qu'elle ne fait pas. Et en fait, l'univers des métavers est bien plus large que celui de Facebook, et heureusement pour nous. Alors, rapidement, métavers, c'est un terme qui est né de ce roman, Le Samouraï virtuel, en français, où c'était la première fois que le terme était utilisé, même si les concepts remontent à bien avant encore. Et pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient qu'en 2003, il y avait déjà Second Life, qui était déjà un métavers à l'époque, dans lequel on pouvait faire à peu près tout ce que proposent les métavers actuellement. Simplement, on n'était pas en immersion totale. Il existe plusieurs plateformes et quand on a préparé ces éléments pour faire nos cours, en fait, il y a eu une investigation qui a duré à peu près 6 mois où toutes les plateformes ont été investiguées avec des critères très très précis pour nous. Il fallait que la plateforme puisse accueillir un grand nombre de personnes simultanément, il fallait qu'elle soit publique et il fallait également que l'on puisse complètement avoir la main sur l'environnement, c'est-à-dire pouvoir créer l'environnement. Donc ça élimine immédiatement la plateforme de Facebook, effectivement, puisque on est dans un environnement qui est déjà produit. Donc pour nous, ça n'est pas intéressant. Il existait une alternative qui était celle de Mozilla Hub, qui permettait de créer des environnements et puis de travailler, de créer du contenu et de pouvoir être plusieurs personnes. En plus, c'est gratuit, sauf que Mozilla Hub n'a pas été suivi. Et finalement, dans les derniers qui restaient en liste, donc il y avait ce Mozilla Hub, Space, celui, alors Horizon, qui met en fait au moment de nos premiers tests, il n'était pas accessible en France. Et finalement, le choix s'est porté sur Spatial, qui rassemblait tous les critères. Alors, quelque chose qui est très, très intéressant, c'est que c'est une plateforme qui est gratuite, qui permet à 50 personnes simultanément de pouvoir accéder au sein d'un même espace. On peut écrire à l'intérieur, on peut dessiner, on peut présenter des planches. Et le premier test, ça a été fait en rassemblant 3 écoles, une école aux États-Unis, une école en Allemagne et l'école de Maurice. Et les étudiants étaient ensemble à présenter leur projet. Et comme c'était pendant la période Covid, moi, j'étais en France pendant ce temps-là. Et Ada, c'était également, je ne sais plus si elle était en Israël ou en France, mais disons qu'il y avait 5 localisations différentes. On a vu apparaître des choses tout à fait étonnantes concernant la façon de présenter les projets, puisqu'il a été possible non seulement de présenter les planches, mais ensuite, dans un deuxième temps, les étudiants devenant plus confiants, ils ont commencé à modifier l'idée même du studio de présentation. Et ensuite, évidemment, on a pu se promener en temps réel à l'intérieur de leurs environnements. On voit aussi des éléments concernant la pédagogie aussi émerger, c'est-à-dire la place de l'enseignant. Et on voit dans les vignettes du bas, là, l'enseignant allemand qui essaie de se redistinguer par rapport aux autres étudiants en sautant en l'air et puis en essayant de se montrer de cette façon-là. Adas, après, va expliquer davantage justement quelles sont les contraintes et surtout les apports très, très intéressants de ce que l'on va pouvoir commencer à appeler un co-design participatif, mais surtout le fait de pouvoir faire de l'enseignement côte à côte plutôt que face à face. La plateforme, j'ai oublié de l'indiquer, permet également de fonctionner avec un téléphone portable ou avec un ordinateur. Donc, certains avaient des casques et étaient vraiment dans l'environnement. D'autres étaient simplement derrière l'ordinateur. Après, on pouvait échanger évidemment le matériel. Mais en tout cas, l'ensemble était extrêmement immersif. Au niveau sonore, puisqu'on a parlé pas mal de sons cet après-midi, en fait, on a un son binaural qui a été un petit peu troublant, finalement, dans un environnement virtuel, puisqu'il a été créé pour que l'on puisse localiser les interlocuteurs et les interlocutrices dans l'espace. Donc, quand on entend quelqu'un parler, en fait, on peut repérer si cette personne est derrière nous, devant nous, sur le côté, et à quelle distance. Et en fait, il s'est avéré que ce système binaural a été plus troublant qu'autre chose, puisqu'on a vu des personnes très éloignés nous dire ben, j'entends rien. C'est un peu comme dans la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est très loin, on entend moins bien que quand on est près. Et cette reproduction assez fidèle de la réalité, finalement, a pu être gênante à certains moments. Alors, les forces de ces plateformes, on a vu ça de façon très très forte, puisqu'il y a eu plusieurs expériences qui ont été menées de suite. Là, on présente essentiellement la première, mais ensuite, l'année suivante, il y en a une deuxième. On a fait un workshop comme ça avec l'Inde, donc à distance. On a fait aussi un cours sur une fin de semestre avec le Japon, les États-Unis et l'Allemagne. Donc, c'est vraiment une façon de systématiser les approches et de regarder quel impact cela peut avoir au niveau de la pédagogie. Alors, les forces, c'est le fait de pouvoir enseigner côte à côte. Et donc, encore une fois, Adas reviendra dessus. Le fait d'être à plusieurs échelles au niveau des modèles, et on a vu que pour comprendre un projet, c'était assez intéressant d'avoir à la fois la maquette dans la main et de pouvoir se promener à l'intérieur du projet. Les points très inattendus, c'est le fait que les étudiants redéfinissent même le studio comme n'étant pas forcément la meilleure solution pour présenter leur projet. Dès qu'ils ont pu avoir la liberté de redessiner leur environnement de travail, ils l'ont fait. Le fait d'être à plusieurs et puis le fait d'avoir des présentations interactives, voilà, où on n'est plus simplement sur l'objet, mais sur des choses un peu plus précises et détaillées. Les faiblesses, il faut des prérequis sur l'utilisation des dispositifs, des prérequis sur le fait de savoir modéliser correctement et puis de pouvoir créer un objet pour le temps réel. Évidemment, il y a des liens liés, des contraintes liées au matériel et aux connexions, ou du matériel un peu puissant et puis des connexions qui vont bien. Et puis, et c'est vrai que l'expérience idéale est faite avec le casque. Voilà, et là l'immersion et la sensation d'être au sein même d'un espace de travail fonctionne parfaitement bien. Alors, tout ça nous a amené dans un projet européen, Beamerhead, à re-réfléchir la place que pouvait avoir ce type d'enseignement à l'intérieur du cursus pédagogique. En fait, c'était lié à une analyse dans un premier temps sur la place des outils numériques dans l'enseignement, en faisant une distinction quand même très très forte entre, on va dire, les outils qui reproduisent ce que l'on peut faire à la main. Je prends un exemple tout simple, c'est AutoCAD. Donc, ce que fait AutoCAD, on peut le faire à la main et inversement. Donc là, il n'y a pas de changement. Et en fait, il y a un changement de paradigme. Effectivement, quand on a des outils qui ne nous permettent pas ou plus difficilement ou avec un coût temps beaucoup plus important, de faire ce que l'on peut faire à la main. Donc ça, c'est intéressant de distinguer les deux et puis de regarder à quel moment on fait le passage de l'un à l'autre, à quel moment dans le cursus, est-ce que c'est suivi ou pas. Et dans les études qui ont été menées, on voit que malheureusement, ces changements de paradigme, les outils de changement de paradigme sont pas très très présents dans le cursus. Et puis ensuite une étude sur toutes les écoles de France ont été faites. Donc une étude sur toutes les écoles de France a été faite sur les écoles en Belgique, sur les écoles en Pologne, en Allemagne, en Irlande et en Macédoine. Et on a vu effectivement à quel moment on utilisait le numérique, à quel moment c'était placé dans la pédagogie et jusqu'à quel niveau de détail. On vient de parler là de simulation aérolique. Ça effectivement, ce sont pas des choses que l'on voit en programme, mais même les simulations solaires, par exemple, pas si fréquent que cela. On voit pas mal de trous comme ça dans l'approche type ambiance. L'idée, c'est ça, c'est de regarder dans la pédagogie ce qui relève de l'héritage, c'est-à-dire ce qui appartient à un flot pédagogique présent depuis plusieurs années et qui répond à un système qui s'autoréférence, ou alors à quel moment dans l'émergence avec des outils nouveaux qui apparaissent et qui remettent fondamentalement en cause la façon dont on va traiter le projet. et les outils liés au virtuel, et puis surtout ce qui arrive maintenant avec l'intelligence artificielle, vont nous amener à interroger ça. Et la thématique des ambiances est au cœur de ces enjeux, puisque en fait, mener un projet par les ambiances nous oblige à réfléchir de façon différente. Alors, toutes les personnes ici en sont convaincues, donc je n'ai pas à le dire très très fort non plus. Mais ça nous amène, comme on a vu dans l'exemple sur le bâtiment conçu pour prédisposition aérolique, en fait, on voit que l'on peut commencer par l'aérolique comme donnée d'entrée, et non pas forcément par la forme du bâtiment. Et ça, c'est intéressant en termes de rupture. Voilà, donc on peut dire que tout ça, ce sont des propos de bonnes intentions, mais Adas, pendant son postdoc, a fait des expériences très très précises pour pouvoir qualifier et quantifier tout ça, et je lui laisse la parole maintenant.
Bonjour, je vais essayer de parler en français, mais parfois je vais utiliser anglais pour quand j'ai besoin. Voilà, alors je continue. Dans mon postdoc, j'étais très intéressée, je suis intéressée de savoir comment. C'est quoi l'effet de système RV sur la pédagogie du dessin et comment en fait on enseigne et on how we learn avec ces outils. Donc je vais présenter quelques exemples. Le premier c'est notre dernier workshop qui a été fait avec Laurent et aussi avec Nirma University. Donc c'était totalement en ligne, mais en France c'était chaque endroit a eu son atelier physique, mais en fait, ils ont dessiné des ateliers en utilisant Spatial. Et nous avons appelé cette workshop le Matryushka parce qu'on a c'est notre approche pédagogique. Qui était spécifié uniquement pour l'utilisation de cette RV, parce que la pédagogie du dessin c'est comme de layers. Le premier layer, c'est le projet du dessin. Mais aussi, le deuxième, c'est l'environnement qu'on dessine aussi, l'environnement d'atelier. Donc, nous avons trouvé qu'il y a une connexion entre les deux qui a fait les étudiants très, très avancés dans la capacité de dessiner. Le différence est de dessiner côte à côte parce que ils marchent dans leur projet ensemble avec les autres, donc ils expérimentent la sensation d'être avec quelqu'un, avec le professeur aussi, donc l'interaction change beaucoup. Ici, je peux pas montrer des résultats parce que c'est un processus de travail, mais je vais montrer des autres résultats. Ici, c'est un autre système RV hybride. Donc, c'est à la Ternion en Israël. On est immergé dans cet écran avec des lunettes 3D et on peut aussi voyager virtuellement. Donc ici, c'est pas l'approche de Matryoshka, mais ici dans ces expériences, nous avons comparé le studio avec le studio traditionnel. Et je vais vous montrer les derniers résultats. Voilà, c'est ici. Je vais pas expliquer beaucoup, mais tout ce que vous voyez, c'est le nombre de design issues concernant le sujet de projet, le expected behavior, le functionality. Ça, on a utilisé ici le FBS ontology de John Jarrow. Cette recherche était faite en collaboration avec le professeur Jarrow et Hernan Kasaki. Vous pouvez continuer, Laurent. Ici, vous pouvez voir que le design issues concernant le structure était plus haut, plus nombreux dans l'environnement RV. C'est le design issue qui était généré par les étudiants. Continuez, s'il vous plaît. Et aussi pour les autres types de design issues concernant le behavior of that structure. Et encore une fois, c'était le système RV qui a supporté ça. Et ici, vous voyez l'enseignant. Et en fait, c'était plus haut, beaucoup plus haut dans la salle qui était non immersive. Vous voyez ici en fait que l'enseignant était totalement, elle a dominé la session. Et nous ne voulons pas ça parce que comme ça c'est très teacher dominated. Et en fait dans l'approche pédagogique, on veut que ça sera plus centré à l'étudiant. Si vous pouvez continuer. Ici, c'est un autre exemple. Encore une fois, c'est dominé par l'enseignant dans la salle non immersive. Et ici, vous pouvez voir l'interaction entre l'étudiant et l'enseignant dans les deux salles. Et vous pouvez voir que l'interaction entre l'étudiant et l'enseignant dans la salle immersive était plus égale si on compare avec la salle non immersive. Et c'est ce que ça, c'est très, on veut ça, si on peut dire très simplement. Donc, c'était de bons résultats pour expliquer comment ce système c'est quoi l'effet dans la pédagogie. C'est un positif effet. Vous pouvez voir le problem-solution shift. C'est-à-dire que quand on dessine, on fait de shift entre ces deux espaces, si on peut dire. Et vous pouvez voir une grande différence entre les deux salles, immersives et non immersives. On ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est ce qu'on a découvert, que vraiment les deux salles, les deux médias sont très, très différents. OK, so here... Here you see, ici vous voyez le Hive 3D. C'est un autre système hybride, mais là on peut faire le co-design avec les autres membres qui sont dans la même salle, mais aussi à distance avec un système égal. Donc là, on a suivi un cours de co-design qui était fait en France et à Montréal Bah, en fait, c'était à Paris Tech et aussi l'université de Lorraine et Montréal. Et c'était un cours multidisciplinaire. Donc, c'était très, très intéressant de voir comment les étudiants de design font un co-design avec les autres qui sont pas qui n'ont pas cette skills. Si on peut continuer, donc là on peut voir le représentation qui était fait en 2D et en 3D, et vous pouvez voir à votre gauche le premier trois, c'était le session multidisciplinaire, et les autres trois, c'est les disciplinaires sessions seulement avec les étudiants qui étaient de l'école de design à Montréal. Et vous pouvez voir ici comment dans les sessions multidisciplinaires, au début, ils utilisaient beaucoup, les représentations 2D. Mais après, quand on a continué les sessions, les montants de représentations 3D a augmenté. Et c'est-à-dire que la communication était mieux avec les autres qui, au début, ne pouvaient pas communiquer. Et si on compare avec les sessions disciplinaires, vous pouvez voir qu'au début, les étudiants de design ont commencé avec les 3D, les représentations 3D. À votre droit, vous pouvez voir le type de représentation. Donc, vous pouvez voir que dans le session multidisciplinaire, il y a moins de, c'est à bleu, moins de modifications si on compare avec les sessions disciplinaires. C'est-à-dire, les modifications de représentation signifie le progrès de design. Donc, c'est-à-dire que la communication entre dans avec les étudiants qui ont le même skills sont en fait plus faciles. Mais quand on voit ça, on peut développer l'approche pédagogique pour les cours multidisciplinaires, parce que ça enrichit beaucoup le knowledge. Et voilà, c'est juste le dernier, ce sont les derniers exemples qu'on a fait. C'était présenté à ICADI conférence, ces deux recherches.
Merci Adas et Laurent. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires?
Bonjour à tous les deux. Donc, Pauline Boyer, artiste et enseignante au sein de cet établissement. Juste pour essayer d'éclaircir un peu les éléments, les diagrammes graphiques que l'on a pu découvrir, vous discriminez deux situations pédagogiques. Bon, en dehors du à distance et en présence, vous parlez de multidisciplinaire et de disciplinaire. Donc déjà, ça implique deux choses. Quelles sont les disciplines mentionnées quand il s'agit de multidisciplinaire? Et par ailleurs, peut-être, il y a un vocabulaire particulier, on dit multidisciplinaire et non pas pluridisciplinaire, interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Il y a un choix de vocabulaire ici qui positionne plus particulièrement une certaine approche de la pédagogie. Aussi, peut-être que pour nous permettre de comprendre ce que ça implique dans la relation entre les enseignants, les enseignantes et les étudiants, les étudiantes, c'est-à-dire quand on parle de pédagogie, j'aimerais bien peut-être que vous précisiez comment vous vous positionnez vis-à-vis de ce qu'implique la pédagogie et plus spécifiquement dans les écoles d'architecture.
Ouais, si je me permets de répondre en anglais. this process is the approach is co-design. So the design project is not I mean the approach of designing is not new, but in co-design the teacher designs it, co-designs with the students. Here in this course, it was without a teacher. It was only students co-designing together. So it's a little different. But anyway, the paradigm of design process applies for architecture the same as for industrial design. I think that immersive environments are even better for architecture, because we as architects we are designing buildings and environments, and we use scaled representations. So actually from my experience in architecture courses, it better supported students because they could see their project in at real scale. And in the experiments that we made, we found out that it helped them bringing more new ideas and also converge their ideas. And this is in immersive environments compared to non-immersive. So I think that this is the whole... I think it's two approaches. One is to promote learner-centered activity, and the other one, and not to dominate the student. And the other one is use the right tools to enhance this activity.
Mm-hmm. Et peut-être pour compléter la réponse pour Pauline sur la question de la discipline. En fait, il y a effectivement le fait d'avoir plusieurs disciplines côte à côte, ça on l'a dit, mais il y a aussi dans l'idée du co-design d'avoir les personnes concernées par l'objectif même du design. C'est-à-dire que, par exemple, des expériences sont en cours maintenant pour faire des projets liés aux hôpitaux et d'avoir côte à côte les soignants, les infirmières, des malades, des visiteurs, côte à côte. Donc la pluridisciplinarité, elle arrive aussi dans l'usage final, et ces systèmes d'immersion permettent vraiment de pouvoir faire ce co-design immergé avec les futurs usagers des lieux. Donc il y a ces deux aspects hein, du côté pluridisciplinaire.
Merci Laurent et Hadass. D'autres questions?
Moi j'ai une question. Donc Amal Aboudaya, architecte, maîtresse de conférence à l'ENSA de Grenoble. À un moment donné, dans votre présentation, vous avez parlé de tenir la maquette à la main et de s'y promener dedans. En fait, donc, est-ce que vous travaillez à la fois avec des objets de maquette physique et en même temps dans un univers virtuel et de dialogue ensemble, ou j'ai pas bien compris?
Alors, en fait, pour répondre... Là, l'idée, c'était d'avoir que des objets virtuels, c'est-à-dire qu'on tient une maquette virtuelle à la main et puis on peut en changer l'échelle, soit en tirant dessus et on se retrouve à l'intérieur même de sa propre maquette, soit en ayant deux objets. Dans les premiers exemples que l'on avait, les étudiants présentaient une maquette à échelle réduite du bâtiment dans lequel on était. Donc, on avait deux systèmes de regard, qui était celui du regard immergé et du regard... synoptique d'une certaine manière, puisqu'on voyait l'ensemble du projet simultanément. Ensuite, là, on est en train de regarder justement comment faire en sorte d'avoir des éléments physiques autour de nous. En fait, le grand changement par rapport peut-être à ce qui existait auparavant, c'est d'utiliser des casques avec lesquels on est complètement libre dans l'espace, et on peut avoir les proportions physiques de l'espace virtuel reproduit en réel. Et à partir de là, c'est-à-dire si on est dans un appartement, finalement, on peut, c'est ce qu'on avait fait dans le workshop Matryoshka, c'est qu'il y avait un appartement et on a créé un espace virtuel des mêmes proportions que l'appartement. Donc, on pouvait se promener. Et ça a été fait dans un diplôme, mettre des objets réels, physiques, qui font que, d'une certaine manière, on a une sorte de réel augmenté ou de virtuel physique qui permettent aussi d'interagir. Et là, un objectif de recherche derrière, ce serait de pouvoir bouger des objets matériels dans l'espace réel et qu'il y ait une rétroaction immédiate dans l'espace virtuel pour que on ait plus cette sensation justement d'espace. Et je sais que ça a été discuté également pour essayer d'avoir des éléments, enfin la question a été posée sur des éléments d'ambiance, sur la chaleur ou la ou le oui, surtout la chaleur ou le vent, où on aurait cette sensation également, bien qu'en étant dans l'espace virtuel et équipé avec le casque.
Ok, donc c'est l'idée en fait d'utiliser le physique comme un cadre finalement prédéfini pour tester des configurations spatiales dans ce cadre physique prédéterminé.
Oui, et je veux juste préciser une chose, c'est que l'élément physique est essentiel pour la réussite de l'espace, de l'expérience virtuelle que l'on peut avoir avec les étudiants. C'est pour ça qu'on l'a appelé Matryoshka, c'est que en fait l'environnement physique de départ doit et contribue complètement à la réussite de l'expérience virtuelle. Si l'espace physique est mal conçu, l'expérience virtuelle ne sera pas bien réalisée. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant, justement. Et quand on voit les échecs des expériences virtuelles dans les musées, par exemple, ou dans des lieux où on dit, tiens, on aimerait faire ça. Et généralement, c'est parce que l'espace physique de départ est mal conçu, cet espace physique accueillant l'espace virtuel. Et après, effectivement, le fait de pouvoir de retrouver des éléments physiques dans le virtuel fait que l'on a une expérience qui est encore plus plus proche du réel, ou en tout cas plus attractive dans ce que l'on veut faire en recherche. Et puis peut-être un dernier petit point très très rapide, il est important, là on parle bien de conception, parce que très très souvent on nous renvoie le terme de représentation. Là c'est pas la question de la représentation, on est vraiment dans l'espace de conception, c'est-à-dire le fait de pouvoir réfléchir à un espace, de projeter à l'intérieur. Et ça demande au niveau de l'attitude, c'est ce que Hadass mesure, et c'est pour ça que c'est parfois un peu compliqué de comprendre son approche, mais elle mesure vraiment ce qui se passe en termes de conception et donc de manipulation des choses et de mise en route de la pensée par rapport à ça.
Et juste une petite question par rapport à ce qui vient d'être dit. Du coup, est-ce qu'il y a un travail en amont qui se fait sur cette prise de conscience finalement de l'espace physique de départ, en termes d'échelle, en termes des proportions, pour que justement ça soit bénéfique, cet aller-retour peut-être entre espace virtuel et espace physique?
Ouais, ça c'est vraiment la question essentielle, à vrai dire. C'est-à-dire que effectivement, ça fait partie des prérequis qui sont assez difficiles à bien tous identifier pour que ça fonctionne. Et dans l'expérience Matryoshka, il a fallu 3 jours, par exemple, aux étudiants pour situer les deux d'une certaine manière. Et ça, c'était intéressant. On n'avait pas imaginé qu'il ait fallu autant de prérequis pour que ça fonctionne bien. Et en fait, ça a été effectivement nécessaire de cette façon-là. Ouais. Parce qu'au départ, on voulait lancer les choses directement en disant, allez, hop, on plonge. Et on voyait bien que ça marchait pas de la façon dont on voulait que ça marche. Et c'était précisément sur cette question, précisément cette question qui doit être traitée comme un prérequis et qui conditionne la réussite de l'expérience.
Ok, merci beaucoup.
Merci. Je crois qu'il est un peu tard. Je vous propose de conclure la journée et de faire un retour sur les 3 sessions.